Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui donc vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente les petites images qui bougent depuis quelque part vers la fin du 19e siècle. Et ce jour, eh bien nous allons rester dans des territoires beaucoup plus contemporains puisque nous allons évoquer la carrière d'un acteur qui nous a hélas quitté en février 2019, un certain Bruno Ganz, un acteur subtil de théâtre comme de cinéma qui n'aura connu que fort tardivement une célébrité un peu paradoxale dans le rôle d'Adolf Hitler lui-même. Nous en reparlerons en fin d'émission. Mais qui est, contrairement à ce qu'on peut penser et contrairement à ce que ce rôle pourrait laisser penser, était en fait suisse, puisque Bruno Ganz est né à Zurich le 22 mars 1941 et que c'est en Suisse aussi qu'il est décédé le 16 février 2019, après donc une longue carrière. Ses parents n'étaient pas du tout dans le domaine artistique, puisque son papa était mécanicien, mais il n'empêche que dès 1961, à l'âge de 20 ans donc, Bruno Ganz entame une carrière artistique qui, dans ses 10 premières années, va être essentiellement au théâtre et qu'il va quitter la Suisse pour Berlin, comme d'autres quittent Narbonne pour aller à Paris réussir. Eh bien, en Suisse, voilà, on va à Berlin et en fait, Bruno Ganz sera l'un des cofondateurs de la fameuse troupe du Berliner Schaubühne avec Peter Stein, des noms qui ne diront rien aux cinéphiles, mais qui, par contre, parleront beaucoup plus aux amateurs de théâtre. Et donc, pendant une dizaine d'années, Bruno Ganz s'épanouira sur les scènes et il continuera d'ailleurs, même après avoir connu le succès au cinéma, à continuer à enchaîner les représentations de théâtre et la mise en scène aussi. Son premier film date de 1960, mais si j'égrène sa filmographie, le premier film important, lui, il le tourne près de 15 ans plus tard, en 1976. Il s'agit d'un film d'Éric Rohmer qui s'appelle « La marquise d'eau » et qui, sauf erreur de ma part, est adapté d'un roman de Kleist, dans lequel donc Bruno Ganz trouve un de ses premiers rôles décisifs au cinéma, avant d'enchaîner pour le coup des tournages et des réalisateurs plus ou moins prestigieux, puisqu'il y aura dès 1977 un premier film avec Wim Wenders, on verra qu'il y en aura d'autres après, et on y reviendra, qui s'appelle « L'ami américain », une sorte d'hommage de Wenders, comme son titre l'indique, au cinéma américain qui l'aura tant inspiré. En 78, on aura La femme gauchère de Peter Handke, et cette même année, un film qui n'a pas grand-chose à voir, mais dans lequel d'ailleurs Bruno Ganz tient un petit rôle, une super production américaine avec Gregory Peck dans le rôle et Laurence Olivier dans les rôles principaux. Ça s'appelle Ces garçons qui venaient du Brésil de Franklin Schaffner, et au risque de spoiler, on y voyait le docteur Mengele, réfugié en Amérique du Sud, essayer de cloner Adolf Hitler et de reproduire son parcours de vie. Des fois, il y en a qui ont de ces idées. Mais la musique était de notre bien-aimé Jerry Goldsmith. En parlant de musique, eh bien, on va écouter un extrait d'un film tourné en 1979, donc juste après les films précités. Un film signé de Werner Herzog, l'un des piliers, l'un des monuments du cinéma allemand, qui en 1979 en était déjà à son 10e film de cinéma, un film intitulé Nosferatu, fantôme de la nuit, et peut-être que les amateurs de vampires ont déjà repéré que Nosferatu, c'est une sorte de vampire, un vampire bien particulier, puisqu'apparemment, il est responsable de l'impuissance des maris, dit ma petite fille, une sorte d'anti-Viagra, si vous voyez ce que je veux dire. Nosferatu était interprété par Klaus Kinski, à ses côtés on retrouvait Isabelle Adjani, Bruno Ganz était dans un rôle un peu moins important. J'ai déjà essayé, était assez bavard, pardonnez-moi, on en reparlera après. La musique, elle est de Popol Vuh, un groupe tellement connu dans les années 80 et si oublié maintenant que je vous laisse en leur compagnie dans 24 notes secondes. L'univers musical si particulier de Popol Vuh pour un extrait de la bande originale de Nosferatu, Fantôme de la nuit, un film de Werner Herzog tourné en 1978 dont les principaux rôles étaient tenus par Klaus Kinski et Isabella Gianni, mais il y avait aussi Bruno Ganz, notre héros de ce jour. Il y avait d'ailleurs d'autres acteurs assez connus comme Jacques Dufilot et Roland Topor, peut-être. Personne n'aura oublié le rire de Roland Topor, ses écrits, ses dessins, espérons-le. Un homme tout à fait original. Le film de Werner Herzog s'inspirait très très lointainement, et bien pas tant que ça, d'un chef-d'œuvre signé Murnau, qui s'appelait aussi Nosferatu, tourné au temps du cinéma muet, et qui reste l'un des grands films de Murnau, qui lui-même est l'un des principaux réalisateurs essentiellement du cinéma muet, Werner Herzog allant jusqu'à reproduire dans son film certains plans exactement calqués sur leur équivalent dans le film de Murnau. Ma foi, il faut bien l'avouer, le résultat n'était guère convaincant, de la même manière que Klaus Kinski n'était pas forcément très inspiré dans le rôle du vampire et Isabella Gianni. Bref, ce n'était pas forcément le film le plus convaincant de Werner Herzog, qui semblait hésiter entre sa révérence un peu paralysante pour l'œuvre de Murnau, à laquelle il n'a jamais caché sa préférence, et le souci, malgré tout, de refaire un film un peu original sur un sujet, les vampires, comment dire, bien rebattu. Bref, rien de bien inoubliable pour Bruno Ganz, qui poursuivra néanmoins sa carrière, donc je l'ai dit, à la fois au théâtre et au cinéma, bon an, mal an, dans les années 80. On pourra retenir en 1981 deux films estimables, La Dame aux Camélias de Mauro Bolognini, avec Isabelle Huppert dans le rôle de la Dame aux Camélias, ma foi, quelque chose d'assez académique et beaucoup plus intéressant. Un film de Volker Schlondorf, bien oublié aujourd'hui, qui s'appelle Le Faussaire et qui se passait pendant la guerre du Liban et qui offrait des points de vue originaux sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Suivront quelques autres films avant que se produise pour Bruno Ganz une sorte de basculement. Parfois, il y en a dans la carrière d'un acteur, un film et un rôle qu'on retiendra en disant « Ah oui, c'était l'acteur qui jouait dans » et 95 fois sur 100, eh bien, ce sera dans les ailes du désir pour ce qui concerne Bruno Ganz, puisque en 1987, on pourra dire que Bruno Ganz sera l'âme de ce film de Wim Wenders. On va écouter un extrait, non pas de la bande originale, qui aussi, curieusement que ça apparaisse, ne semble pas disponible, c'est même presque incroyable, mais on va écouter tout simplement à l'effort musical la bande-annonce, sans les images, bien sûr, de ce film, et on le réévoquera après, donc Les ailes du désir, Der Himmel über Berlin, dans 24 notes secondes.
Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht.
Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden.
Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können.
Hey, warte, ist das Columbo?
Nee, glaube ich nicht.
I can't see you, but I know you're here. I feel it.
Magnifique voix de Bruno Ganz lui-même dans une sorte d'extrait, la bande-annonce des ailes du désir, Der Himmel über Berlin, un film de Wim Wenders tourné en 1987. L'histoire de deux anges interprétés par Bruno Ganz d'une part et Otto Sander de l'autre qui observent la ville de Berlin. Ils sont immortels, ils sont invisibles, ils sont impalpables, sauf pour les enfants, bien sûr. Les enfants savent tout, les enfants voient tout, et ils écoutent les humains, ils errent dans cette ville de Berlin, avec les histoires d'amour, les banalités, les anecdotes, les incidents, et les monologues intérieurs aussi des personnages. Il y a des scènes absolument magnifiques dans la bibliothèque municipale de Berlin, avec de longs plans filmés en noir et blanc, puisque le film c'est à moitié en noir et blanc, en partie en noir et blanc, en partie en couleur, et une photographie signée d'Henri Alécan, un grand photographe dont c'était l'une des dernières collaborations, où on voit donc Bruno Ganz, ange, progressivement conquis par une délicieuse trapéziste, incarnée par Solveig Nonnemartin, dont c'était le premier rôle au cinéma, et qui finit par renoncer à son statut d'ange et à part rejoindre les turpitudes humaines. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le film est en couleur puisqu'on se trouve plongé dans la réalité. Il y a aussi Peter Falk, alias Columbo, bien sûr, qui joue Peter Falk. Et Peter Falk est, comme Bruno Ganz, un ancien ange devenu lui aussi humain par amour. Bref, comment dire, Les ailes du désir, c'est un de ces films idéaux, comme on ne s'en lasse pas, d'une beauté absolument époustouflante, d'une douceur, d'une subtilité, d'une élégance qui sont au-delà des mots. J'ai sous les yeux une image qui représente Bruno Ganz, invisible, en train de regarder la jeune trapéziste se mirant dans un miroir avant une représentation. Der Himmel über Berlin, Les ailes du désir, c'est un petit miracle d'intelligence et de beauté. Et Bruno Ganz, il gagne vraiment ses galons d'acteur. Il n'avait pas grand-chose à prouver, mais dans ce rôle, il est à la fois impassible, magistral, et tout en douceur. On aurait envie que des anges pareils nous observent avec un mélange d'amour et de frayeur au-dessus de nous. En 1987, le film obtint le prix de la mise en scène, alors seulement, direz-vous, après toutes ces dithyrambes, mais il faut dire que trois ans auparavant, en 1984, Wim Wenders avait déjà obtenu la Palme d'Or pour le fameux Paris, Texas, que personnellement, je me permets de trouver bien inférieur à Ses ailes du désir, un film où on retrouvait aussi Peter Hanke, récemment Nobel controversé de littérature, mais qui a quand même collaboré, on a évoqué tout à l'heure La Femme Gauchère, un des films qu'il a tourné, qui a quand même collaboré au cinéma à des œuvres aussi élégantes et aussi enthousiasmantes que Les ailes du désir, dédiées, et j'en aurais fini, à trois ex-anges aujourd'hui disparus. En tout cas, c'était le sentiment de Wim Wenders, à savoir trois réalisateurs parmi les préférés de Wim Wenders: Yasujiro Ozu, Truffaut, François et Tarkovsky, Andrei. Il y a des patronages plus malvenus. Après, il faut quand même continuer à évoquer la carrière de Bruno Ganz. On se rassure en disant qu'on va quand même rester dans les sommets de l'art. Et on va écouter, puisque j'étais assez bavard, on en parlera après, un extrait de la bande originale d'un film de Theo Angelopoulos. Alors là, comme ça, je n'ai plus l'année sous les yeux, mais ça va revenir. 1998, pardonnez-moi. On écoute un extrait de cette bande originale et je reviens après sur l'œuvre et l'éternité de Bruno Ganz en 24 notes secondes. L'élégante partition d'Eleni Carendru, interrompue un peu abruptement, mais comme ça, ça arrive sur la bande pour un extrait de la bande originale de L'Éternité. Et un jour, je me garderai bien de vous donner le titre en grec, un film de Théo Angelopoulos qui obtint en 1998 la 51e Palme d'Or du Festival de Cannes à l'unanimité du jury présidé par Martin Scorsese. Et le héros de ce film, eh bien, c'est Bruno Ganz, alias Alexandre, un écrivain célèbre qui va bientôt mourir et qui accompagne jusqu'à la frontière un jeune Albanais rencontré par hasard. Un film très contemplatif, très mélancolique, où Théo Angelopoulos mélange une réflexion sur la vie, la mort, ce genre de choses. Alors, ça peut paraître comme ça un peu convenu, mais la puissance esthétique et créatrice de l'homme, connue pour ses longs, très longs plans séquences, eh bien, fait que les choses sont tout à fait élégante. Et comme j'ai été bien trop bavard et qu'il faut quand même écouter encore un peu de musique, on va enchaîner assez rapidement et assez brutalement, il faut bien le dire, avec le film que j'évoquais en disant que c'était un des derniers de la carrière de Bruno Ganz, c'est un de ceux qui avait le plus marqué, puisque en 2004, eh bien, Bruno Ganz s'empara au exercice redoutable du rôle, si l'on peut dire, d'Adolf Hitler dans un film réalisé par Oliver Hirschbiegel, sorti en 2004 et qui raconte tout simplement les derniers jours d'Hitler dans son bunker, quelque part sous la ville de Berlin, en train d'être prise par les Russes et évidemment son suicide. On peut penser aux côtés de sa compagne Eva Braun. Bref, quelque chose d'assez sordide, il faut bien le reconnaître, avec un mélange de nausée et d'admiration devant la performance de l'acteur et une bande originale dont on va écouter un extrait tout de suite, signé de Stéphane Zakaria dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale signée de Stéphane Zakaria de La Chute, Der Untergang, un film de Oliver Hirschbiegel consacré au dernier jour d'Adolf Hitler qui se termine donc le 20 avril 1945 quand Adolf Hitler se suicide avec sa compagne Eva Braun peu après le suicide de Magda et Joseph Goebbels, les fidèles parmi les fidèles et de leurs, je ne sais plus combien, 4 ou 5 enfants. Rien de bien gay, il faut le reconnaître. Pour évoquer, et nous allons hélas en terminer, la carrière de Bruno Ganz, l'un des acteurs suisses et allemands les plus subtils de ce demi-siècle passé. En l'été 1918, Bruno Ganz devait assurer le rôle de l'orateur dans une version de la flûte enchantée de Mozart à Salzbourg. Et se sentant faible, il consulte le corps médical qui lui décèle un cancer du côlon. Et ma foi, le cancer du côlon l'emportera le 16 février 2019 à son domicile de Aou, ça s'écrit Aou, A-U, quelque part en Suisse. L'homme aura bien mérité à la fois du cinéma et du théâtre. Évidemment, nous ne sommes pas là pour évoquer sa carrière théâtrale, mais indiquons qu'il aura été pendant plus de 20 ans le titulaire de l'anneau de Iffland, qui est attribué tous les ans au plus grand acteur de théâtre allemand. Et pendant plus d'une vingtaine d'années, Bruno Ganz fut considéré comme tel. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2008. Ça s'appelle La bande à Bader. Comme son titre l'indique, c'est consacré évidemment aux actions ou exactions de la bande à Bader, quelque part dans les années 67-68. La musique, elle est signée de Peter Hinderthur et vous étiez dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, auf Wiedersehen.